De la beauté, de l'intelligence et de la saveur, finalement, de la connaissance, nous allons parler ce soir en compagnie de Catherine Malabou, philosophe, auteure d'un livre intitulé « Métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu ?» et en compagnie de Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, qui publie un livre passionnant sur la beauté dans le cerveau. Et nous allons commencer comme chaque soir en musique et un peu d'humour pour l'intelligence. Intelligence et humour, ça va ensemble. Eh bien, nous allons commencer par Albin de la Simone dans la tête.
Solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, tu crois.
Ben justement, qu'a-t-on dans la tête? Première question que je pose à vous deux. Catherine Malabou, je rappelle que vous êtes philosophe, que cela fait longtemps que vous publiez des livres qui ont trait justement au fonctionnement de notre cerveau, à la définition de l'intelligence, à l'histoire de la philosophie que vous enseignez aussi en Angleterre ainsi qu'aux États-Unis. Jean-Pierre Changeux, dois-je rappeler que vous êtes l'un des neurobiologistes les plus réputés au monde, que vous aviez publié L'homme neuronal, c'était en 1983. Et que depuis, il y a eu toute une succession de livres tous aussi passionnants, mais que vous êtes aussi, et peut-être est-ce la raison pour laquelle vous êtes un très grand savant, passionné par les histoires de l'art, de l'approche de la beauté, et que votre dernier ouvrage développe les capacités particulières et les zones particulières de notre cerveau qui se développeraient chez certains créateurs parce qu'il se passerait des choses qui ressortent un peu d'une alchimie, qui provoquerait justement ces ondes de beauté qui sont trop transmises jusqu'à nous. Alors, première question, qu'est-ce qu'il y a dans notre tête ?
Mais d'abord, quelle place tient le cerveau dans notre tête ? C'est une place très importante, c'est notre crâne est rempli par notre cerveau et notre cerveau est l'objet le plus complexe qui existe chez les êtres vivants. Et le cerveau de l'homme en particulier, il est composé de cellules nerveuses qu'on appelle les neurones. Et ces cellules nerveuses sont au nombre de centaines de milliards, ce qui est un chiffre déjà très important. Mais surtout, ces neurones sont interconnectés les uns avec les autres. Ils forment un réseau d'une extraordinaire complexité. Donc on a affaire à une machine, si j'ose employer le terme, qui est redoutable dans son organisation et de sa complexité, et qui est, je pense, en résumé, le produit de trois évolutions successives. La première, c'est l'évolution biologique, depuis les origines de l'humanité chez les singes, puis
c'est ce qui nous a distingué en tant qu'être humain par rapport aux animaux.
Et justement, on arrive à l'homme. Donc, ne serait-ce que simplement, et c'est pas seulement la taille du cerveau par rapport à celle d'organismes comme les singes, et surtout, encore une fois, la complexité et le nombre de ces connexions. Et la deuxième évolution, qui est aussi très importante, que d'ailleurs Catherine a mentionné d'une manière répété, et je la remercie pour ça, c'est une évolution de la connectivité. C'est-à-dire que cette machine se conduit progressivement du nouveau-né à l'adulte. Le poids du cerveau augmente 5 fois. Et disons, plus de la moitié des contacts entre cellules nerveuses, des synapses, de contacts synaptiques, se forment après la naissance. Et cette évolution est évidemment très importante parce que c'est pendant ces moments-là critiques que l'enfant apprend la langue, apprend à écrire et à lire, et aussi internalise la société qui se trouve autour de lui. D'abord, évidemment, les parents. Et puis la troisième évolution, je simplifie énormément, c'est l'évolution de la culture, bien entendu. Et celle-ci est évidemment le produit du cerveau des hommes. Mais c'est toute une histoire, un enchaînement de mémoires qui sont conservées d'une part dans le cerveau des populations humaines, mais aussi et surtout dans des écrits, dans des documents plus stables que le cerveau lui-même, des œuvres d'art en particulier. Donc il ne faudrait surtout pas avoir une vision simpliste de notre cerveau. C'est dans la tête, c'est vrai, mais c'est pas de l'eau. Hein, c'est quelque chose de très organisé et surtout ce qui est important, c'est que dans le cerveau adulte, celui-ci conserve une capacité de changer, de se modifier, une flexibilité, une plasticité, comme on peut le dire. Et cet aspect-là est évidemment très important. L'enfant apprend, mais l'adulte aussi est susceptible de faire progresser la connaissance ou de faire progresser la manière dont les êtres humains communiquent entre eux, entre autres par l'art.
Alors, c'est ce que nous apprenons en lisant vos deux ouvrages, Jean-Pierre Changeux, mais vous aussi Catherine Malabou, c'est que le cerveau continue à se développer absolument tout le temps. Il y a des métamorphoses perpétuelles du cerveau. Nous continuons à entretenir à chaque seconde notre propre cerveau. Et c'est la plasticité, c'est un mot très important, je crois, pour comprendre le fonctionnement du cerveau, qui est sa caractéristique. Mais cette plasticité, elle pose aussi des problèmes, Catherine Malabou.
Oui, mais je voudrais d'abord dire que, effectivement, le travail de Changeux a été une révélation pour moi, précisément pour ce qu'il vient de rappeler, à savoir l'idée qu'il y a plusieurs évolutions imbriquées les unes dans les autres, qui est une idée tout à fait révolutionnaire parce qu'on n'est plus dans un déterminisme strict et qu'il fait procéder la culture du cerveau et que donc ça pose à nouveau frais les relations du biologique et du social. Et je trouve ça totalement passionnant. Et c'est précisément aussi, puisque vous me posez la question, ce qui pose problème. Parce que on est à un moment très critique actuellement où on se demande au fond quelle est la part pour aller vite du naturel et quelle est la part, du social. Précisément, le concept d'intelligence que j'ai essayé d'interroger dans mon livre est à cheval entre les deux c'est un concept critique parce qu'on se situe au point intermédiaire extrêmement subtil de la construction et du donné.
Alors, le naturel et l'artificiel s'opposent, ne sont pas complémentaires dans ces problématiques du cerveau. À travers vos deux ouvrages, on s'aperçoit qu'effectivement, le cerveau, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Changeux, c'est une machine, même si elle est naturelle, n'empêche que, et ça, Catherine Malabou, vous y faites allusion dans votre dernier ouvrage, les ordinateurs sont construits aujourd'hui comme des cerveaux humains. Et les ordines... Ah, vous faites la moue, Jean-Pierre Changeux. Vous pouvez exprimer votre désapprobation. D'abord, il n'y a aucune comparaison à faire. En tout cas,
il y a des comparaisons à faire, bien entendu. Mais je pense que d'abord, personnellement, je ne pose pas le naturel au culturel. Parce que je pense que le culturel est évidemment issu de l'activité du cerveau de l'homme et notre cerveau est susceptible d'internaliser le culturel. Donc je dirais que notre cerveau est à la fois nature et culture. C'est un cerveau humain et en même temps il est imprégné de tout l'environnement culturel dans lequel le jeune s'est développé. En ce qui concerne la comparaison aux ordinateurs avec les ordinateurs, je dirais qu'on est très très loin, même dans le projet Cerveau Bleu, d'arriver
Alors,
à avoir...
Alors, il faudra expliquer ce que c'est que le Cerveau Bleu.
D'arriver à avoir des ordinateurs qui se comparent dans leur performance à celle du cerveau humain. C'est vrai que certains ordinateurs sont plus rapides pour le jeu de Go, pour les échecs, que le cerveau de l'âme. Mais il faut bien penser à une chose sur laquelle on ne réfléchit pas suffisamment, c'est que le cerveau de l'homme fonctionne à la vitesse du son, comme je vous parle, alors que l'ordinateur fonctionne à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire des ordres de grandeur plus rapidement. Et malgré ça, malgré cette différence gigantesque entre le cerveau de l'homme et le cerveau de l'ordinateur, à ma connaissance, on est encore très loin d'accéder aux performances du cerveau humain, ne serait-ce que sur un point dont on peut parler, c'est-à-dire la créativité artistique ou philosophique, puisque quand même, les philosophes sont aussi des créateurs, j'espère.
Bien sûr, les philosophes sont des créateurs, mais alors justement, on va parler de ce cerveau bleu. Vous allez nous expliquer, Catherine Malabou, ce qu'il en est de ce cerveau bleu et quel est ce cerveau bleu. Vous, Jean-Pierre Changeux, vous avez l'air optimiste. Vous dites que l'ordinateur ne supplantera jamais le fonctionnement du cerveau.
J'ai jamais dit ça. Jamais est un terme que les scientifiques n'utiliseront jamais.
Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Mais par contre, vous m'accorderez qu'on
peut pas savoir ce que l'avenir sera.
Oui. Mais vous m'accorderez qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a de nombreux cerveaux qui travaillent à faire en sorte que des ordinateurs soient aussi performant que des cerveaux humains.
Puis se rapprocher le plus possible de ce.
Mais je crois que c'est pas
Catherine Malabou. Alors, cerveau bleu d'abord. Expliquez-nous ce qu'est
le cerveau bleu. En fait, c'est une puce BlueJean qui a été employée à Lausanne par Macram, qui a fait un premier programme de cartographie du cerveau et sur lequel il a greffé le Human Brain Project. Qui en fait augmente l'efficacité du premier. Donc le cerveau bleu, en fait, c'est un programme. Hein. C'est un programme de cartographie
des différentes zones du cerveau.
Voilà. Alors moi non
plus. Ça peut nous apporter quoi ? Ce programme, il est en ce moment en route. Il est en train de se développer. Il se fait à l'école polytechnique de Lausanne.
Oui, on simule les colonnes corticales. Alors en ce moment, des rongeurs. Alors, on en est encore...
Vous dites en ce moment. Pour le moment, c'est la période des rongeurs, mais dans quelques années, ça sera les hommes.
C'est le projet. Ouais. C'est le projet d'arriver à cartographier chaque colonne corticale dans le but avoué de soigner les maladies, de ne plus avoir recours à l'expérimentation animale et puis de comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors, moi, je voulais juste dire par rapport à ce que disait Jean-Pierre que Effectivement, au niveau de la performance, je suis d'accord que pour l'instant, les ordinateurs sont loin des performances humaines. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la nature du changement, du fonctionnement des nouvelles puces, qui sont dites les puces synaptiques. Et on est sorti du modèle von Neumann pour avoir
c'est
des puces.
C'est quoi le modèle von Neumann?
C'est le modèle qui est en ce moment employé dans nos ordinateurs, c'est-à-dire que les puces sont limitées à un certain nombre de fonctions et ne différencient pas leur énergie. Les puces synaptiques, elles peuvent moduler leur efficacité, un petit peu comme les neurones du cerveau. Donc c'est peut-être moins une question de performance qu'une question de modélisation, quoi. Et si on regarde ça, je ne suis pas quand même complètement persuadée que la comparaison cerveau-ordinateur soit sans pertinence.
En tout cas, on sait, Jean-Pierre Changeux, qu'il y a des puces qui sont introduites à l'intérieur de certains organismes humains qui sont consentants pour pouvoir le faire, qu'à l'intérieur de certaines zones géographiques dans le monde, et notamment dans la Silicon Valley, il y a des gens qui sont très contents de porter des puces parce qu'ils économisent du temps. Pour le moment, c'est pouvoir ouvrir leur réfrigérateur ou plus vite la porte de leur maison. Mais demain, ça sera peut-être pour connaître nos coordonnées bancaires, notre identité, nos ascendants, notre race, notre sexe, etc. Jean-Pierre Changeux.
Je crois qu'il y a plusieurs problèmes qui sont... que vous évoquez à la fois enfin, dans cette conversation. Il y a le projet Blue Brain, qui est un projet particulier, qui a été lancé par Henri Markram, et qui est un projet de simulation du cerveau de l'homme. C'est-à-dire qu'on va partir des éléments constitutifs du cerveau, qu'on va évidemment essayer de décrire par un langage informatique, et... avec ou non l'aide de ces puces que vous avez mentionnées. Et à partir de la description de ce que l'on connaît du cerveau de la souris et du cerveau de l'homme, d'abord du cerveau de la souris, à partir de toutes ces données, les mettre ensemble et essayer de faire un programme informatique global. Ça, ce projet est en cours et peut nous apprendre un certain nombre de choses sur la manière dont fonctionne notre cerveau. De là à croire qu'on aura par ce programme une description complète, exhaustive du cerveau humain tel qu'il est aujourd'hui, c'est déjà, ça me paraît très difficile. Et, diverses
c'est de la
raisons
science-fiction,
pour
donc, pour
mais,
vous. Pas de souci à se faire.
Je pense que non, mais le deuxième aspect que vous mentionnez, c'est l'insertion d'éléments artificiels dans un cerveau humain pour en augmenter les performances. C'est ce qu'on appelle l'augmentation ou ce qui est appelé enhancement en anglais. Et je trouve qu'il faut être extrêmement prudent sur ce domaine. Ça, c'est ma position, parce que le Human Brain Program dont je fais partie, donc le Blue Brain est seulement un des éléments de ce grand programme européen, a aussi une section éthique.
Et, je rappelle que vous avez été président du Comité national d'éthique pendant de nombreuses années
aussi,
et que vous continuez à travailler dans ce domaine.
Et c'est moi qui ai eu la responsabilité de créer cette section éthique dans l'Human Brain Programme, que j'ai donc dirigé pendant plusieurs années. Maintenant, j'ai laissé ma place. Mais cette réflexion a pour but justement d'essayer de voir quelles sont les limites de ces développements technologiques et la manière dont on peut interagir entre ces nouvelles technologies et le cerveau de l'homme, et ce qu'est aussi, pour employer un terme plus général, la personne humaine. Et je pense que dans le cas de certaines pathologies, par exemple un handicap lié à une paralysie, une section de la moelle épinière ou des traumas cérébraux, il est évident qu'il faut venir à l'aide des personnes qui sont handicapées. Et je crois que c'est une de mes premières motivations, parmi d'autres, de trouver des médicaments contre la maladie d'Alzheimer, etc. Et donc, dans ce contexte...
Parce que nous connaissons toutes les localisations permettant de remédier...
Non, on ne les connaît pas toutes, loin de là. C'est-à-dire que connaître tout, c'est ou on, jamais ceci, c'est des termes que je n'utiliserai pas en tant que scientifique, c'est tout. On est loin de les connaître toutes. Et on sait aussi qu'il y a une variabilité considérable au niveau de l'organisation du cerveau d'un individu à l'autre. Ça, c'est aussi... un autre problème. Mais compte tenu du fait qu'il y a quand même des points communs entre les cerveaux humains qui font que ces cerveaux sont des cerveaux qui relèvent de l'espèce humaine, hein, qui est spécifique à l'espèce humaine, on peut espérer intervenir dans des situations où il y a des lésions. Essayer de trouver les moyens de faire en sorte qu'une personne qui a une difficulté motrice puisse, en fait, à partir d'ondes cérébrales que l'on va enregistrer avec des puces, bon, c'est vrai, on va les enregistrer dans le cerveau de la personne handicapée et essayer de faire en sorte qu'on puisse reconstituer à partir de ces signaux produits par le cerveau de la personne considérée, qu'on puisse l'aider à, par exemple, faire bouger sa main et attraper un verre ou une bouteille, ou parfois même, peut-être, à marcher et pour les tétraplégiques. Il y a toute une série de travaux qui sont faits dans ce sens-là, je pense que l'augmentation dont on parlait tout à l'heure est indispensable. C'est le but de la médecine. Qu'est-ce que c'est que la médecine ? C'est réparer, c'est faire en sorte que ceux qui se trouvent dans une situation difficile, où par exemple leur vie est en danger, ou leur survie est mise en cause, ils puissent vivre comme tout le monde. Voilà, donc ça c'est le but de ces interventions d'augmentation, si vous voulez. Mais de là à introduire des systèmes de simulation chez des sujets, disons-le, normaux, comme vous et moi, ça pose un problème. Parce que ça veut dire qu'on veut faire
c'est possible
des
aujourd'hui.
Super cerveaux. Et oui. Ça, si vous voulez, j'ai des doutes, beaucoup de doutes.
Mais est-ce que c'est possible de faire des super cerveaux aujourd'hui dans la recherche? Et ça veut dire quoi, un super cerveau?
C'est dire qu'un cerveau qui fonctionnerait avec des performances supérieures à celles du sujet normal, si je voulais, qu'on voit rencontre au quotidien. Et là, si vous voulez, ça rejoint un petit peu le problème qui est posé par Catherine de l'intelligence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer que en implantant des puces, on va augmenter l'intelligence? Moi, j'ai beaucoup de doutes. Je pense qu'on peut simuler et effectivement réparer un certain nombre de fonctions, de là à augmenter les performances du cerveau de l'homme. Je pense qu'on peut, dans des situations où il n'en a pas la nécessité, si vous voulez, ça me paraît une entreprise, en tout cas que moi je ne recommande pas. Si vous voyez, je pense qu'en tant que scientifique, nous devons être extrêmement attentifs à cet aspect-là des choses.
Et vous, en tant que philosophe, Catherine Malabou, nous avons l'impression, en lisant votre ouvrage, que ces choses-là sont désormais techniquement envisageables, donc concrètement possibles, des cerveaux augmentés, comme vient de le dire Jean-Pierre Changeux. Et c'est ce problème des frontières qui vous intéresse, parce qu'à partir de là, que devient, comme vous venez de le dire Jean-Pierre Changeux, la personne humaine qui portera la responsabilité de faire ou de ne pas faire des cerveaux augmentés?
Tout à fait. Mais peut-être que là, c'est un point de désaccord. Enfin, je ne sais pas si c'est un désaccord, mais en tout cas, un point de nuance avec Jean-Pierre, c'est que j'ai du mal, je ne devrais peut-être pas dire ça publiquement, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'on entend par éthique dans les sciences aujourd'hui. Si par éthique, on entend simplement c'est bien ou c'est mal.
Quand oui, Jean-Pierre dit, c'est pas la manière dont nous en parlons.
Non, mais quand Jean-Pierre dit, je ne le recommande pas. Bon, oui, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire qu'après tout,
Que vous ne le recommandez pas, vous serez forcément suivi des faits.
Oui, et si moi j'ai envie.
C'est la question de savoir que dans nos sociétés, quelle est la place de l'éthique.
Si oui, mais c'est ça. Mais il faudrait la définir. Je suis bien d'accord qu'il y a un vrai problème.
Ricoeur l'a défini, la vie bonne, avec et pour les autres.
Oui, mais la vie bonne, elle peut très bien.
Alors, voilà, qu'est-ce que la vie bonne?
On peut avoir une vie
pas
bonne.
C'est une question d'éthique.
Comment
vous la définissez, vous, la vie bonne?
Disons que Malabou.
Non, mais là, c'est une question énorme. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien avoir une intelligence augmentée et être une personne humaine. Je veux dire que je vois pas.
Pas tout à fait. Puisqu'on a quelque chose de plus que son voisin.
Mais on a quelque chose de plus depuis toujours. Enfin, on est quand même des êtres prothétiques
Oui,
à
moi,
beaucoup
mon
de dégâts.
Problème dans alors, Jean-Pierre le problème dans l'augmentation, c'est que je sais pas, c'est pas simplement comment dirais-je une augmentation globale de toutes les performances. À ma connaissance, c'est extrêmement difficile d'arriver à intervenir de cette manière-là. Quand j'ai parlé de l'aspect utile de l'augmentation, c'est lorsqu'il y a des lésions spécifiques, il y a des problèmes, par exemple la vision, l'audition.
Hein, oui. Mais ça, c'est de la réparation.
Pas la réparation.
Oui, mais c'est exactement là où je considère qu'il y a de l'augmentation qui est indispensable. Mais autrement, si vous voulez, augmenter les performances globales de notre cerveau, à la fois sur le plan sensoriel, sur le plan moteur, sur le plan de la compréhension, sur le plan de la création, honnêtement, à la fois, surtout, ça me paraît illusoire.
Et le
ça me paraît illusoire. Et le risque, c'est qu'on augmente certains aspects et pas d'autres.
Oui,
et alors
ça,
là, ça devient un dysfonctionnement global. Et c'est ça qui, moi, me paraît.
Mais concrètement, c'est envisageable, Jean-Pierre Changeux.
Ah, bah oui, c'est plus qu'envisagé, puisque il y a même certaines entreprises qui vous recommandent des stimulateurs du cortex préfrontal pour vous faire accroître vos performances en mathématiques ou des choses comme
bien
ça.
Sûr.
Enfin, c'est ça paraît assez ridicule. Là où c'est encore plus dangereux, à mon avis, c'est dans le cas des agents pharmacologiques. Et si vous voulez, des agents pharmacologiques qui augmentent, bah, on les connaît. Hein. C'est la cocaïne est un exemple que tout le monde connaît. Et moi, je ne vais pas recommander, en tant que pharmacologue, sous prétexte de se sentir un peu plus performant, prendre un usage quotidien de la cocaïne. C'est un non-sens.
Comme moi, le problème éthique que ça me poserait,
Catherine
si vous voulez tout ça... C'est moins une question de limite qu'une question de démocratie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ces techniques-là sont réservées vraiment à une élite, qu'il y a une sorte de société dans la société, Google, etc., la Silicon Valley, et que c'est eux qui... Enfin, je veux dire, moi, mon problème, il est plutôt qui a accès à ça.
Qui peut s'offrir un cerveau
voilà.
augmenté.
Voilà, pour l'instant,
c'est
il
une
est
élite.
Clair...
Je pense que malheureusement, je suis peut-être non pas en désaccord, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet, parce que tout ce qui concerne ces nouvelles technologies, elles vont être mises à la disposition de tout le monde. D'avoir des agents pharmacologiques qui stimulent les fonctions cérébrales, c'est demandé pour un malade d'Alzheimer, mais chez un sujet comme vous et moi, je ne recommanderais pas. C'est ce que je disais
tout à l'heure. Oui, je comprends.
Alors, ce qui est étrange, Jean-Pierre Changeux, c'est que dans la littérature, y compris contemporaine, y compris dans cette rentrée littéraire, il y a plusieurs livres qui parlent de ces problématiques d'augmentation du cerveau,
oui, bien sûr.
De la transformation de la notion de ce que ça veut dire être humain grâce à ces nouvelles technologies, etc. Et il y a aussi pas mal de films, on les a pris pour des films de science-fiction. Et d'ailleurs, vous, Catherine Malabou, vous citez plusieurs fois des films.
Oui.
Des films qui n'ont fait qu'anticiper une réalité que nous vivons aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un court extrait d'un film qui s'appelle Hair de Spike Jonze.
Keep walking, keep walking. And stop. Now turn around 360 degrees. Slower, slower. Okay, and stop. Walk forward. And stop and sneeze.
Achoo!
Bless you.
Oh, thank you.
Okay, turn to your right, turn to your right. Stop. Now spin around. Keep going, keep going. And stop. Now walk forward. Everyone thinks you're really drunk right now. And stop. Now say, I'd like a slice of cheese, please.
I'd like a slice of cheese, please.
You want a pulpit, Dad?
sure.
I figured you were hungry.
Oh, thanks.
Alors, vous pouvez expliquer cette scène et quels sont les enjeux de ce film qui n'est plus du tout un film de science-fiction, Catherine Malabou.
On entend cette voix très sensuelle de l'actrice... Et en fait, c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de corps, c'est simplement une voix.
Et c'est Scarlett Johansson.
C'est Scarlett, et qui n'existe que dans un ordinateur, c'est un système dont le héros tombe amoureux, ils ont une histoire d'amour. une véritable histoire d'amour, avec sensualité, avec amour physique, etc., juste avec la voix. Et c'est la première fois, enfin pour moi, c'est la première fois que je voyais une machine qui n'était pas un robot. C'est-à-dire qu'il y a une interaction avec un système artificiel qui n'est pas du tout robotisé, qui a la sensualité, la présence, l'adaptation, la plasticité d'un être humain. Donc c'est un film qui m'a fascinée. Et c'est un film qui finit mal. À la fin, le système part, quitte l'homme en question, et on s'aperçoit qu'en fait, la machine veut vivre dans un monde de machines et n'est pas intéressée véritablement par cette histoire.
Mais c'est peut-être ce qui va se passer, c'est que les machines ne voudront pas de nous, on sera complètement inintéressant par rapport à eux qui seront
donc
beaucoup
plus
performants.
Donc c'est pas est-ce que les machines vont prendre le pouvoir, etc. C'est cette espèce d'indifférence de l'artificiel pour le naturel.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, avec deux cerveaux bleus dans ce studio ce soir. Vous écoutez le choix musical de Catherine Malabou, Jeanne Moreau, India Song. Je ne sais pas dans quelle zone du cerveau se situe le plaisir que nous avons d'écouter la voix de Jeanne Moreau dans cette chanson India Song tirée d'un film de Marguerite Duras, mais en tout cas, on a l'impression, en vous lisant Jean-Pierre Changeux, que il se passe des choses dans notre cerveau qui, quand le plaisir surgit et nous bouleverse, eh bien, il y a quand même des choses qui se fabriquent aussi dans le cerveau.
Bien entendu, oui. J'ai justement essayé de, dans ce livre, publié chez Odile Jacob, de dire comment le plaisir artistique ou le plaisir esthétique, le choc esthétique, avec quelque chose de particulier et d'unique par rapport à d'autres plaisirs, je dirais, plus ordinaires, comme celui de boire de l'eau fraîche, après tout, et de, d'avoir donc une sensation de plaisir qui, dans le cas de l'art, se singularise par le fait que il y a une sorte de synthèse qui se produit dans le cerveau, qui est donc mobilisé dans son ensemble. Il n'y a pas une aire, hein, il y en a beaucoup qui interviennent avec évidemment des poids différents les unes par rapport aux autres, dans lesquels il y a une sorte d'harmonie entre le plaisir et la raison, en quelque sorte. Dans l'œuvre d'art est une création. Et c'est là où, justement, pour l'instant, les machines qui sont construites par l'homme n'accède pas d'une manière aussi espérée que l'on pourrait penser à cette qualité de créer. Et la création est singulière et elle associe donc ce critère de plaisir à un symbolique qui est évidemment très important. Quand on regarde Guernica, par exemple, on est très ému, on est touché. On peut appeler ça une forme de plaisir, si vous voulez, de plaisir esthétique. C'est une émotion qu'on peut recevoir, mais en même temps, il y a une cause qui est défendue. Il y a à la fois, si vous voulez, cette horreur de la guerre et aussi, peut-être quand même, cet espoir, cette volonté, quand on regarde le tableau, d'aller contre. Hein, d'être motivé. Et c'est là où l'artiste communique avec le spectateur. Et c'est pour ça que je vois l'art comme une forme de communication sociale, si vous voulez, qui est très ancienne, qui est dès les origines de l'humanité. On peut penser qu'il y avait déjà un échange qui se place sur ce plan. Et en ce qui concerne le cerveau, si vous voulez, c'est une sorte de prise de conscience particulière, singulière, et l'accès à la conscience, on peut le suivre par des enregistrements, par exemple électrophysiologiques sur le cortex cérébral, et on peut voir lorsque une perception devient consciente après quelques centaines de millisecondes, enfin on voit apparaître une onde que, avec Stanislas Dehaene, nous avons appelée ignition, une espèce de d'embrasement, en quelque sorte. Et j'aime bien dire que dans le cas de la perception artistique, on a un embrasement singulier, si vous voulez, et qui touche à l'ensemble du cerveau sans que tout soit concerné. C'est si vous voulez, il y a des aspects sélectifs de l'activité cérébrale qui sont engagés. Bon, j'ai parlé de Guernica, c'est une vision tragique, mais vous pourriez penser à Matisse et la blouse romaine, cette femme qui est très belle avec sa blouse blanche, etc., où il y a un sentiment de bonheur, de repos, de calme, de quiétude et en même temps de singularité de cette personne que l'on voit reprise par Matisse. Comme il disait, j'aime bien la peinture comme un bon fauteuil. Hein, c'est-à-dire que ça m'apporte beaucoup de plaisir, de détente, etc. Et il y a tout dans l'art, si vous voulez. Il y a à la fois la violence, c'est un exemple, il y a le bonheur, et il y a aussi la contestation. Bon, je parle de la guerre, mais aussi pour l'environnement. J'étais par exemple à cet opéra de Philippe Manoury, Kein Licht, qui s'est joué à l'Opéra Comique, où c'est une protestation contre Fukushima et en quelque sorte les risques que l'on fait courir avec l'énergie atomique, etc. Et je trouve qu'à cet égard, il y a à la fois une association d'une merveilleuse musique, pour moi du moins, et aussi un engagement. C'est-à-dire que l'art fait partie d'une communication engagée entre l'artiste et le spectateur ou l'auditeur.
Alors Jean-Pierre Changeux, vous parlez des émotions du cerveau, et ça c'est vraiment passionnant. Et vous, Catherine Malabou, en tant que philosophe, vous nous interrogez, je crois à juste titre, sur ce réveil de conscience que nous devons avoir par rapport à ces transformations et ces nouvelles technologies qui ont trait aussi aux expérimentations du cerveau, mais aussi, et c'est le thème principal de votre dernier ouvrage, à la définition de l'intelligence. Est-ce qu'on est rentré déjà dans l'ère de l'intelligence artificielle ?
Oh oui, enfin quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, on va dire neuronales, on était en période d'intelligence artificielle dite faible.
Et, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire
faible, ça voulait dire mais c'était un terme technique. Disant que à l'époque l'intelligence artificielle faible c'était les systèmes experts, vous savez ce qu'on avait pour acheter son billet de train, etc. Searle a écrit un livre très intéressant d'ailleurs là-dessus, et on pensait que au fond on dépasserait jamais ce stade-là, et puis on s'aperçoit depuis je dirais une quinzaine d'années qu'il y a eu un bond en avant extraordinaire de l'intelligence artificielle. Alors il y a toute une histoire que qui est programmée, hein, que je décris dans mon livre. L'intelligence artificielle, et puis ensuite l'intelligence augmentée, puis la super intelligence. On prévoit quand même un avenir de cette notion. Donc oui, je crois quand même qu'il y a eu des avancées de l'intelligence artificielle considérables.
Et quels en sont les enjeux ? Quelles en sont les frontières ? En termes d'éthique, qu'est-ce que cela pose comme question ? Parce que vous avez l'air de nous dire que les progrès technologiques sont si rapides, les connaissances sont si précises qu'on en viendrait même à utiliser, c'est vous qui le dites, hein, je ne le savais pas, je l'ai appris en lisant votre livre, qu'il y aurait maintenant des couteaux génétiques qui seraient capables de séquencer l'ADN. Quelles en seraient les conséquences ?
Ah oui, mais ça, je pense que ça n'a pas de rapport avec l'intelligence artificielle, ça c'est les... CRISPR-9, c'est le couteau génétique qui permet de remplacer
un
gène par un autre. Bon, ça c'est effectivement une avancée technologique énorme, mais si vous voulez, c'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la simulation des fonctions cognitives, pour aller vite, par des systèmes cybernétiques.
Qui vont nous remplacer.
Alors, bon, c'est là que peut-être le débat prend un terrain glissant, parce que moi je ne vois pas, si vous voulez, la question dans ces termes-là, c'est-à-dire en termes de compétition homme-machine, je vois plutôt les termes, je vois plutôt la situation en termes de nouvelles rationalités, nouvelles interactions,
nouveau monde du travail,
nouvelles incitations à penser,
à condition que l'homme domestique toujours la machine. Ah, je vois Jean-Pierre Changeux, mais Jean-Pierre Changeux, vous n'êtes pas à la télé, vous êtes à la radio.
Oui.
Domestiquer la machine.
Non, mais je ne vais pas interrompre, mais je pense que là, on est confronté à un problème extrêmement important. Je pense que effectivement, nous sommes considérablement aidés par ce que l'on peut appeler l'intelligence artificielle pour tous les progrès de l'informatique, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que le téléphone portable et l'accès à des banques de données, de connaissances comme sur Google, etc., enfin qui nous aident énormément. Et donc je ne pense pas qu'il faille avoir une attitude conservatrice d'opposition à ce genre de choses. C'est au contraire, je pense, des aspects positifs qu'il faut encourager. Par contre, la relation des robots, par exemple, et des êtres humains, qui est un aspect particulier, peut parfois inquiéter. Par exemple, si on regarde, on relit le chapitre 5 de Karl Marx sur dans le Capital, comme vous le savez, il y a un chapitre où, dans ce chapitre, les ouvriers cassent les machines parce que ils considèrent que les machines prennent leur place. Et je pense que c'est vrai.
Hein, oui, non, mais ça c'est juste.
Et le problème est que dans une usine qui fabrique des voitures, maintenant, l'essentiel est fait par des robots. Ce ne sont plus des ouvriers. Ouais. Il y a des ouvriers qui réparent les machines, mais les machines... Donc, le problème social comme vous le dites, ça change le monde du travail, mais ça le change radicalement.
Oui, mais ça change
aussi tous
les
principes
là,
d'éducation, Catherine Malabou. Vous parlez dans un de vos chapitres, justement, des enjeux de l'importance des robots dans le système d'apprentissage des connaissances. Vous dites que peut-être on va arriver dans un monde où il n'y aura plus besoin d'un rapport enseignant-enseigné et des machines pourront dispenser des connaissances à chacun d'entre nous.
Oui, je ne sais pas si on n'en aura plus besoin, mais hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, on va quand même de plus en plus vers ces formes d'enseignement à distance qui existent déjà.
Donc un monde déshumanisé.
Non.
Jean-Pierre Chantal.
Ah non, non, moi, c'est pas parce qu'on utilise des systèmes électroniques, des MOOC, par exemple, pour effectuer des enseignements à distance, qu'au contraire, je dirais que il y a des aspects très positifs de cette forme d'enseignement, en ce sens qu'on peut accéder à un enseignement à distance, à des populations qui n'ont pas les moyens d'aller à l'université, etc. Donc, je pense qu'il y a un aspect extrêmement positif. Le problème n'est pas tellement le développement des énoncés, mais à qui bénéficient ces nouvelles technologies. Et je pense que ça, c'est un problème, pardonnez-moi, qui est social et éthique.
Voilà, social, c'est sûr.
Qui bénéficie le plus?
Aux plus riches.
C'est ce que Piketty, que l'économiste Piketty, que vous connaissez toutes, nous suggère. Hein, c'est que, en fait, avec le développement technologique, les inégalités s'accroissent. Bon, alors c'est contesté, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, mais il y a un risque. Et justement, je pense que dans la mesure où, et ça je parle en tant que scientifique, nous participons à la construction de nouvelles machines, de nouvelles applications pour l'homme, sous quelque forme que ça soit, nous avons la responsabilité que ces bénéfices soient répartis sur l'ensemble des populations sur Terre, pas simplement au sein de pays développés comme l'Amérique ou l'Europe, mais aussi l'Afrique, le Moyen-Orient et toutes ces populations qui sont déshéritées et au contraire qui devraient bénéficier le plus des progrès de la science et de la technologie. Alors, mon opinion.
Catherine Malabou, comment faire Oui, vous dites que ce sont des enjeux démocratiques majeurs pour notre société.
Et il y a cette notion d'intelligence collective aussi, hein, qui est un concept philosophique intéressant, ou du cyberespace, d'un chercheur comme Pierre Lévy, par exemple, que je trouve très intéressant, qui est aussi que, effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut absolument bâtir une démocratie de l'intelligence artificielle.
Est-ce possible ?
Je pense, bien sûr. Mais bien il sûr. Faudrait que, justement, puisqu'on parlait de l'éducation, il faudrait que les ministères de l'éducation s'en emparent. Il faudrait faire de cette question une véritable question d'intérêt public.
Dernière question, c'est vous qui l'a posée dans votre ouvrage, Catherine Malabou. Va-t-on arriver à une civilisation où il y aurait une éventuelle j'arrive même pas à le dire tellement c'est difficile à dire. Vous allez le dire.
Biologisation
du transcendantal.
Ah, ça c'est une très belle dernière question.
Ben oui.
Mais
ben oui.
Écoutez,
ça veut dire qu'on n'aurait plus d'imaginaire, on n'aurait plus.
Non.
La biologie n'est pas du tout quelque chose de réducteur. Pas du tout. Un transcendantal biologisé, c'est un transcendantal plastique, c'est un transcendantal vivant. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là.
Non, je ne pense pas.
Plasticité du cerveau nous sera toujours acquise, conservée.
Ben, il faut espérer.
Il faut l'espérer.
Et je pense que l'éducation doit précisément, puisque vous le mentionnez, ouvrir le cerveau de l'enfant, de l'adolescent, à de nouveaux mondes et à de nouvelles responsabilités. Et je pense que c'est un aspect sur lequel nous insistons beaucoup au Human Brain Programme, c'est que nous devons participer à des découvertes, mais des découvertes qui soient responsables. C'est-à-dire faire en sorte que on ait, et c'est malheureusement pas souvent le cas en tant que scientifique, les moyens de voir qu'est-ce qui est fait à partir de ces découvertes. Et je me permets de citer Günther Anders, par exemple, qui considère que notre responsabilité éthique, c'est d'essayer d'anticiper ce qui pourrait devenir un désastre. Nous devons réfléchir aux conséquences des innovations que nous produisons, nous. Et ça, c'est pour cette raison que Il faut vous remercier déjà de diffuser la science sur vos ondes, mais je pense que le grand public doit s'informer de plus en plus. Il doit
et ne pas rester dans un monde de fantasmes,
de science-fiction, avec un sens critique, une rationalité en permanence qui lui permette d'avoir un jugement aussi élaboré et construit que possible. Donc c'est... ça, c'est à nous aussi, en tant que scientifiques, que de participer, et philosophes, bien sûr, avec les philosophes, la main dans la main, de participer à cette démarche. C'est notre responsabilité.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour le plaisir que vous nous donnez grâce à vos ouvrages et à des quantités d'informations qu'on ne maîtrise pas toujours, mais en tout cas, on arrive à s'orienter. Merci à votre rigueur philosophique, Catherine Malabou. Grâce à cet ouvrage « Métamorphose de l'intelligence », nous n'avons abordé que quelques tout petits fragments de toutes les problématiques que vous posez. Et merci à vous, Jean-Pierre Changeux, pour la beauté de ce livre sur la beauté dans le cerveau, où on apprend des choses inimaginables, aussi bien sur Henri Matisse que sur Léonard de Vinci, qui le soir allait découper des cadavres pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire un cerveau. Merci infiniment.
Merci de nous avoir invités.
À tous les deux. Et bien comme chaque soir, après le prochain journal de la rédaction, vous retrouverez Mishka Sayas pour Very Good Trip. Et merci à Nicolas Delmas qui était à la technique ce soir, à Romain Imbertèche qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Antoine Dujeu et Jean-Baptiste Audibert pour la musique.